le magazine des Nations Unies.
Bosco Ntaganda face au juge de la CPI. Le procès de l'ex-chef rebelle de l'UPC a démarré mercredi dernier à La Haye. Le film est de cette première audience, ainsi que les réactions sur ce procès ici au pays dans cette édition. La police nationale a un rôle important à jouer dans la sécurisation du processus électoral en RDC. Une trentaine d'officiers de la Légion nationale d'intervention à l'école des principes humanitaires applicables dans les opérations de maintien de l'ordre public. Une formation assurée par le Comité international de la Croix-Rouge RDC, le CICR. Restons toujours dans le cadre de la police pour jeter un regard sur la composante police de l'unité d'appui à la réforme du système de sécurité au sein de la MONUSCO. Le chef de cette composante nous en dira plus dans la rubrique décryptage. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à tous. Le procès de Bosco Ntaganda s'est ouvert mercredi dernier devant la CPI, la Cour pénale internationale. L'ancien chef de guerre est accusé des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri, dont le viol d'enfants soldats. La séance d'ouverture a été marquée, entre autres, par les déclarations liminaires du bureau de la procureure de la CPI. Ici au pays, des réactions ont été enregistrées. Suivez plutôt ces dossiers de Jean-Pierre Elali et Coco.
Bosco Ntaganda, 41 ans, a comparu mercredi dernier devant le juge de la Cour pénale internationale à La Haye. D'abord, le bureau de la procureure a fait des déclarations liminaires reprenant des faits et des crimes attribués à l'ancien général des FARDC, des crimes qu'il aurait commis dans quelques localités de l'Ituri entre 2002 et 2003. Ensuite, le bureau s'est engagé à présenter au cours de ce procès plus de 70 témoins qui ont vécu des faits qui seraient imputables à Bosco Ntaganda, mais aussi plus de 8000 documents parmi lesquels des rapports d'experts, des déclarations et des extraits vidéo. Le procès qui a débuté mercredi dernier a permis aussi au juge d'entendre les avocats des victimes, ensuite l'avocat de Bosco Ntaganda. Il était prévu aussi que l'accusé lui-même fasse une déclaration orale sans prêter serment. Après une courte interruption, le procès reprendra le 15 septembre prochain avec la présentation de preuves de l'accusation ainsi que la déposition du premier témoin. Alors, ici au pays, le début de ce procès n'a pas laissé les populations congolaises indifférentes. En Ituri, théâtre des conflits entre 2002 et 2003, le Forum des mamans de l'Ituri, une structure qui lutte contre la violation des droits de la femme, attend la réparation des crimes dont est accusé Bosco Ntaganda. Écoutez Jacqueline Boudja, sa coordonnatrice.
Qu'on établisse les responsabilités et qu'on punisse l'auteur de toute violence contre la femme pendant les périodes de conflits armés.
Même sentiment de la part de Pascal Doudanga Cavarios, député national élu de l'Ituri. Pour lui, le procès doit être équitable.
Les juges sont là pour établir les culpabilités de tout et chacun par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Ituri.
Par contre, l'UPC de Thomas Lubanga, parti auquel a appartenu Bosco Ntaganda, l'UPC estime que Bosco Ntaganda a été diabolisé faussement et que la vérité sera connue dans ce procès. Diokaba Lambi, secrétaire général de l'UPC.
Bosco Ntaganda a été tellement diabolisé pendant que nous ne l'avons jamais connu comme tel. Nous attendons justement que toute la lumière et que seule la vérité puisse éclater au terme de ce procès.
Une autre interrogation suscitée par le procès, la CPI pourra-t-elle poursuivre cet ancien général des FARDC pour les crimes qu'il aurait commis dans le Nord Kivu? D'après le chargé de la communication de la CPI à Kinshasa, Paul Madidi, des enquêtes sur ces allégations sont toutes de même en cours dans la région du Nord Kivu. Il a dit mercredi dernier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies.
Retenez qu'effectivement, pour l'instant, M. Bosco Ntaganda n'est poursuivi que pour des crimes commis en Ituri. Je ne peux pas m'avancer sur ce qui se fait actuellement, mais retenez qu'il y a des enquêtes en cours par rapport aux allégations des crimes commis dans le Kivu, des allégations qui concernent un peu tous les groupes armés, tous les groupes actifs dans le Kivu. Ça va de CNDP M23 et même les FARDC sont concernés par ces enquêtes.
Pour rappel, Bosco Ntaganda est accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont des meurtres pillages, attaques contre des civils, viols, esclavage sexuel. L'ancien rebelle de l'UPC de Thomas Lubanga aurait joué avec ses troupes un rôle central dans les violences ethniques et attaques menées contre les civils en Ituri.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous poursuivons notre série d'entretiens sur l'unité d'appui de la MONUSCO à la réforme du système de sécurité RSS. Cette unité travaille depuis plusieurs années avec les institutions étatiques au renforcement de ces secteurs. Aujourd'hui, le magazine des Nations Unies reçoit le colonel-major Moussa Diallo, chef de la composante police de la RSS, pour évoquer la mission, les réalisations et les défis de la composante, sans oublier les niveaux atteints de la coopération avec la police nationale congolaise. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Colonel Moussa Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la composante police et de la réforme du système de sécurité au sein de la MONUSCO. Quels sont les objectifs de votre composante?
La composante police au sein de la mission, et plus particulièrement au sein de l'unité de réforme du secteur de la sécurité, a pour objectif de coordonner et de superviser l'ensemble de toutes les activités qui se rapportent à la réforme de la police nationale congolaise, que ce soit dans les phases de conceptualisation, de mise en œuvre et de supervision.
Votre appui au niveau des stratégies et des techniques s'étale sur un plan quinquennal, donc dans 5 ans. Comment vous l'articulez concrètement?
Notre appui se fait effectivement dans le cadre des actions listées dans le plan d'action quinquennal de la police, mais en fait elle se greffe plutôt sur les organes de la police qui sont en charge de la réforme, notamment le comité de suivi de la réforme de la police, la cellule de réforme au sein du commissariat général et la cellule qui est en charge de l'inspection générale aussi. Donc en fait, nous sommes présents auprès des organes qui sont chargés de la réforme en vue d'appliquer les actions listées dans le plan quinquennal.
La réforme de la police existe depuis 2000, si j'ai bonne mémoire. Quel bilan faites-vous sur ces derniers mois en ce qui concerne votre composante, donc la composante police au sein de la RSS?
Et la réforme de la PNC a commencé en fait en 2005, mais nous avons appuyé les premières actions de la réforme qui ont eu lieu en 2005. C'est-à-dire la police nationale congolaise a mis en place un groupe mixte de réflexion sur la réforme de la police, auquel groupe nous avons pris part. Donc ça a commencé en 2005, notre appui pour le bien de la police congolaise.
Et comment ça se passe concrètement?
Concrètement, nous sommes présents avec notre expertise auprès des organes de la police, c'est-à-dire nous avons participé aux organes de réflexion. Nous sommes actuellement présents dans les organes de conceptualisation, comme le comité de suivi de la réforme, dans les organes de mise en œuvre, comme la cellule réforme de la police, et dans les organes de suivi-évaluation. Donc nous sommes présents à ces différents stades-là, par notre expertise, aussi par un appui plus minime en matière de moyens, c'est-à-dire par l'impact de certains projets QIPS. Nous intervenons, mais ça, c'est vraiment pas la grande partie. Mais surtout, nous faisons beaucoup de formations.
Alors justement, sur le plan de la formation, comment vous faites ça concrètement? Vous formez les policiers en quoi, les policiers congolais?
Nous faisons d'abord de la formation de formateurs, parce que notre objectif, c'est que les policiers congolais puissent eux-mêmes prendre la relève dans les meilleurs délais. Donc, nous faisons de la formation de formateurs. Et ensuite, nous faisons de la formation à la carte, selon les besoins de la police nationale congolaise, quand elle les exprime. Donc, nous faisons des formations, par exemple, en maintien et rétablissement de l'ordre public, notamment en vue des élections prochaines, en gestes et techniques professionnelles d'intervention. C'est vraiment des sujets très techniques. En police judiciaire, en droits humains, il faut que je le mentionne parce que ça a été un de nos soucis cardinaux. Et dans presque tous les domaines d'intervention de la police.
Vous êtes chef de la composante police et du système de réforme de la sécurité depuis 4 ans maintenant. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur le nombre de policiers que vous avez formés, bien sûr avec la police nationale?
Je peux peut-être vous dire ce que nous avons fait ces derniers mois. Mais pour le nombre global, il va falloir repartir dans les statistiques parce que nous avons commencé cette formation depuis 2003. Donc nous avons vraiment énormément formé. Mais ces derniers mois, nous avons surtout formé en police judiciaire dans le province du Nord Kivu de la province orientale. Nous avons formé 59 officiers. Nous avons formé 245 policiers en matière de traitement de l'ordre public.
Ça, c'est à l'Est.
C'est à l'Est toujours. En fait, nous sommes de moins en moins présents dans les écoles à l'Ouest. Nous privilégions notre action à l'Est du pays. Mais en vue des élections, nous sommes en train de rebasculer vers l'Ouest afin de pouvoir former aussi les unités d'intervention à l'ouest du pays.
Il y a aussi dans votre composante l'intégration des questions transversales. Comment ça se passe, ce processus, avec des exemples plus concrets?
En fait, nous essayons de faire en sorte que durant toutes nos formations soient prises en compte le problème du genre, de lutte contre les violences sexuelles et de protection de l'enfant.
Parlons avant tout du genre. Comment vous le faites?
D'abord, nous suggérons à nos partenaires congolais que durant toutes les formations, il y ait un quota important de personnel féminin. Ensuite, dans les phases de conceptualisation, notamment au comité de suivi de la réforme de la police, nous avons une cellule genre à laquelle nous contribuons énormément, qui a pour but justement de faire en sorte que le genre soit pris en compte au sein de la police, non seulement pendant les formations, mais même sur certains aspects particuliers. Imaginez par exemple un centre de formation de la police. S'il n'y a pas de chambre réservée aux femmes, s'il n'y a pas de toilettes réservées aux femmes, ça pose un problème. On n'y pense pas toujours. Mais il faut déjà y penser et leur faire une sorte de discrimination positive afin de les amener à intégrer le rang de la police.
Et en ce qui concerne les violences sexuelles, quelle est votre intervention à ce niveau?
C'est surtout au niveau de la formation. Nous mettons l'accent sur les violences sexuelles. Nous expliquons que c'est des infractions spécifiques qui nécessitent un traitement particulier. Vous ne pouvez pas faire une enquête de violence sexuelle comme une enquête ordinaire. Il faut protéger l'identité de la personne, il faut une certaine confidentialité, il faut une certaine dose de psychologie et penser aux victimes, aux enfants des victimes. C'est vraiment des procédures vraiment particulières et nous essayons d'impliquer nos partenaires dans l'observation de ces mesures.
Et c'est là où vous parlez aussi dans le cadre de cette formation, les droits de l'enfant.
Oui, la protection de l'enfant, ça va de pair pratiquement avec les problèmes liés aux violences sexuelles.
Colonel Moussa Diallo, le Congo va entrer maintenant dans le processus électoral. La police nationale a un rôle à jouer en ce qui concerne le maintien de l'ordre public. Quel est, à votre niveau, l'apport que vous pouvez donner à ce niveau du processus électoral en tant que composante de la MONUSCO?
En fait, la sécurisation du processus électoral est un souci pour la police de la MONUSCO. Après, nous avons fait la semaine dernière, le 25, 26 et 27, un séminaire de 3 jours à Goma pour nous préparer à cela. Et nous voyons notre intervention d'abord au niveau de la formation. C'est-à-dire nous allons essayer d'apporter notre expertise au groupement mobile d'intervention et à la Légion nationale d'intervention de la PNC pour mieux les outiller. Nous essayons de faire du lobbying auprès de nos partenaires pour obtenir pour la police du matériel non létal, des grenades lacrymogènes, des boucliers, ainsi de suite, pour que la gestion de ces événements se fasse vraiment avec le plus grand professionnalisme.
Et dans tout travail humain, il ne manque pas de difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrer et comment vous en sortez?
Les difficultés sont d'abord internes à nous-mêmes, c'est-à-dire nous n'avons pas toujours les expertises dont nous voulons bénéficier afin d'aider la police. C'est-à-dire nous avons certaines expertises qui nous manquent. Quand nous voulons des experts en logistique pour mieux élaborer les textes, nous manquons d'expertise en finance pour appuyer la réforme de la police nationale congolaise, mais nous travaillons à subvenir à cela. Nous avons aussi des difficultés par rapport à notre capacité financière. La MONUSCO n'est pas une grande pourvoyeuse de fonds.
Mais vous avez parlé des CUPS.
Oui, mais c'est des petits projets, vous le savez,
à impact rapide. Des petits projets qui ne dépassent pas 25 000 dollars.
Exactement. Or, nous aurions souhaité nous installer dans la durée avec des projets vraiment beaucoup plus importants. Mais pour compenser cela, nous essayons d'amener les autres bailleurs de fonds à s'inscrire dans le financement de la réforme.
Et avec le gouvernement congolais, comment les choses se passent, et notamment avec la police nationale congolaise, est-ce que vos relations sont au beau fixe?
Avec la police nationale congolaise, il faut avouer que nous avons des relations exemplaires parce que nous sommes vraiment des anciens compagnons. Comme je l'ai dit, depuis 2005, nous cheminons ensemble et cela sans interruption. Vraiment, nous pouvons citer ces relations-là comme des exemples dont les autres devraient s'inspirer. Entre amis, on peut se dire certaines choses. Nous déplorons certaines lenteurs au niveau de la police nationale congolaise.
Par exemple, en ce qui concerne les décrets qui ne sont pas encore publiés?
Bon, ce n'est pas spécifiquement la police, mais c'est l'administration en fait qui n'a pas encore fait adopter et publier certains décrets.
Lesquels?
Le décret portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale. Le décret qui réglemente l'intervention des autorités administratives dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Le décret aussi qui fait la répartition en fait des tâches, des missions entre les forces de police, enfin les services de police et les forces des armées en cas de violence. Donc nous estimons que ce sont des décrets importants dans la perspective des élections. Il serait bon qu'il soit publié bien avant.
Colonel Moussa Diallo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le journaliste de 35 ans au moins, des pays de développement, encouragé à participer à un concours de reportage lancé mercredi dernier par le PNUD. Sujet à exploiter, le changement climatique. Un sujet d'actualité à l'approche de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, prévue du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Les candidats soumettront leurs reportages en anglais ou en français, arabe, chinois et espagnol, jusqu'au 11 octobre. Les deux premiers lauréats du concours assisteront et couvriront la rencontre de Paris. Droit à l'éducation, déjà ce lundi, c'est la rentrée scolaire. L'UNICEF, toujours fidèle à sa tradition, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance promet des kits scolaires pour près d'1,5 million de nouveaux élèves du primaire dans les milieux les plus vulnérables. Une manière pour l'UNICEF de contribuer à la réduction des barrières financières à l'entrée à l'école en République démocratique du Congo. Enfin, Martin Kobler, fin mandat à partir du 31 octobre prochain à la tête de la MONUSCO. La nouvelle a été annoncée mercredi à Kinshasa au cours de la conférence des presse hebdomadaire des Nations Unies. Avant de quitter son poste pour des nouvelles fonctions, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU se rendra dans le prochain jour à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies où il présentera son rapport sur la situation en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Comité international de la Croix-Rouge a organisé du 25 au 28 août dernier un séminaire de formation à l'intention d'une trentaine d'officiers et des sous-officiers de la Légion nationale d'intervention. Cette formation consistait à doter les participants de notions et pratiques des principes humanitaires applicables dans les opérations de maintien de l'ordre public. Sylvain Guénon, délégué régional de la police du CICR et formateur principal, ainsi que M. Diego Rojas Coronel, délégué adjoint du CICR en RDC, reviennent dans cet entretien que vous allez suivre tantôt sur l'importance de cet atelier de formation et le programme de coopération d'une manière générale entre le CICR et la police nationale congolaise. Ils répondent tour à tour aux questions de Jean-Pierre Ilali Ikoko.
Monsieur Sylvain Guénon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes délégué régional de la police du CICR. Le CICR vient d'organiser depuis mardi une session de formation à l'intention des officiers de la Légion nationale d'intervention. Vous en êtes le principal formateur. Quel est l'intérêt et même l'objectif de cette formation?
Déjà, je vous remercie pour votre question. Alors, l'objectif de ce séminaire, c'était un séminaire qui quand même regroupait l'ensemble des officiers subalternes et supérieurs de la Légion nationale d'intervention, durant lequel nous avons pu rappeler, puisque chaque officier de la Légion nationale d'intervention a déjà ses connaissances sur les règles internationales applicables à la fonction policière concernant des sujets d'importance qui sont l'usage de la force et l'usage des armes à feu.
Et alors, cette formation s'inscrit dans le cadre du programme du CICR avec la police nationale congolaise. Pouvez-vous parler brièvement de ce programme?
Oui, tout à fait. Mais ce programme se déclinait sur 4 jours, notamment en se basant sur 2 textes des Nations Unies, le texte du code de conduite concernant les responsables de l'application des lois et les principes de base de l'usage de la force et des armes à feu. Nous avons pu donc les lire, les analyser, en prendre réellement la substantifique moelle pour pouvoir travailler concrètement sur des thèmes d'importance, notamment des thèmes qui sont soulignés par le Comité international de la Croix-Rouge.
Quels sont les différents modules qui ont été développés?
Oui, alors les différents modules, nous avons pu parler des missions quotidiennes et des pouvoirs de la police, des missions quotidiennes qui sont la protection et l'assistance des populations. Nous avons parlé aussi des pouvoirs de la police d'arrestation et de détention, et finalement nous avons pu également travailler sur le pouvoir d'usage de la force et des armes, nous référant bien évidemment sur des textes contraignants et non contraignants qui sont les déclarations universelles des droits de l'homme, le pacte international des droits civils et politiques, et bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, sur 2 textes de l'ONU, sur le code de conduite et les principes de base de l'usage de la force et des armes à feu.
Et vous êtes le formateur principal. Et quels sont les enseignements concernant justement les policiers qui ont été formés?
Les enseignements que nous pouvons tirer, c'est que réellement, la Légion nationale d'intervention s'implique énormément dans le cadre des respects des règles internationales. Et nous l'avons pu le constater de par la motivation des officiers participants. On a pu, durant ces 4 jours, voir l'extrême motivation des participants, des officiers subalternes et supérieurs, qui ont démontré tous les jours et à chaque module une motivation qui s'est caractérisé par l'obtention de cette attestation de participation au séminaire.
Bien sûr, lorsque vous avez donné cette formation, vous avez pu percevoir certaines difficultés que rencontrent nos officiers dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans le maintien de l'ordre public.
Oui, le comité international, par son mandat, bien sûr, est sensible aux difficultés rencontrées par les forces de police, parce que, comme vous le savez, le métier de policier n'est pas un métier facile. Il doit lutter contre la criminalité, il doit procéder à des enquêtes, il doit assurer la sécurité et la protection de la population, il doit maintenir et rétablir l'ordre. C'est une des missions principales de la Légion nationale.
Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas un métier facile, comme on peut se permettre de le dire, et le CSR en a tout à fait conscience. Et c'est pour ça que, à la demande des autorités de la Légion nationale d'intervention, nous sommes proposés également et répondu à l'invitation pour organiser ce séminaire d'importance.
Monsieur Guénon, merci beaucoup et bon retour à Genève.
Merci à vous.
Monsieur Diego Rojas, Coronel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de délégation adjoint du CICR en République démocratique du Congo. Nous venons d'assister à la clôture du séminaire destiné aux officiers de la Légion nationale d'intervention ici à Kinshasa. Quelles sont avant tout vos impressions après cette cérémonie de clôture?
Merci. Très positif, très positif. Et on a constaté dans les 4 jours de séminaire un intérêt très très marqué et une participation très active de la part des officiers qui étaient présents et qui étaient vraiment les cadres opérationnels, les commandants qui sont impliqués dans les opérations de la LENI. Donc on est extrêmement satisfait de l'accueil qui nous a été réservé.
Parlons maintenant de l'appui du CICR. Vous existez depuis longtemps ici en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la formation des policiers congolais en général et même ceux de la Légion nationale d'intervention en particulier.
Oui, tout à fait. On a une très longue histoire en RDC. La formation à la police, à la Légion nationale d'intervention, fait partie de tout l'éventail des activités qu'on fait avec les forces armées et de sécurité concernant le respect des principes humanitaires et le respect du cadre juridique applicable, que ce soit en situation de conflit armé ou pour les cas de la police ou de la LENI. Ça concerne spécifiquement les principes applicables dans les maintiens de l'ordre, dans les opérations de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre, notamment lors des situations de troubles ou de violences comme celles qui parfois arrivent en zone urbaine. Et donc le CICR, son appui consiste essentiellement à travailler avec les autorités de la police pour organiser des formations. Dans certains cas, il peut s'agir de séances de diffusion plus courtes pour donner un bref aperçu de ces principes, des standards et aussi pour le familiariser avec l'action humanitaire du CICR, de la Croix-Rouge en général. Dans d'autres cas, comme c'était le cas ici, il s'agit de formations plus longues. Là, c'est une formation qui s'est étendue sur 4 jours et qui vont aller en profondeur sur l'application concrète des principes et du cadre juridique, des normes de droit qui régissent ces domaines du maintien de l'ordre. Donc là, l'idée, c'est de concrètement discuter avec les officiers mais comment ils peuvent mener leurs opérations dans le strict respect de ces cadres normatifs.
Est-ce que dans votre programme, vous prévoyez d'autres séances ou même d'autres séminaires de formation après celle qui vient de se tenir ici aujourd'hui à Kinshasa?
Tout à fait, ça fait partie d'un effort continu. On avait fait un séminaire aussi.
Surtout à l'intérieur du pays.
Oui, tout à fait. On avait déjà fait des séances de formation ou des séminaires similaires dans le passé. On continuera à les faire. On a des séances de diffusion plus courtes, mais on a une série de séances qui sont prévues déjà à Kinshasa, prochainement avec la police nationale, qui démarre de la semaine prochaine. On aura aussi d'autres séances qu'on fait déjà mes collègues dans l'intérieur du pays et notamment dans les zones les plus touchées par des situations de violence, dans l'Est, donc notamment dans les Kivu, mais on peut les faire aussi au Katanga, en province.
Monsieur Diego Rojas, Coronel, je vous remercie.
Merci à vous.
La sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires, Madame Kyung-Woo Kang, à visiter la RDC du 31 août au 4 septembre. Au Nord Kivu, elle s'est rendue au camp des déplacés de Mugunga 3 dans la périphérie de Goma. Madame Kyung a fait un constat amer des conditions de vie de plus de 5000 pensionnaires de ces camps. Au cours de la conférence des presse des Nations Unies mercredi dernier, Sylvestre Tumba Mudingai, en charge de la communication du bureau OCHA RDC Kinshasa, est revenu sur cette visite à l'étape du Nord Kivu. Suivez.
Pour avoir une idée de la situation des camps et discuter de la possibilité de trouver des solutions durables pour les centaines de milliers de personnes déplacées qui y vivent, ce camp héberge 5000 personnes déplacées internes, dont près de la moitié est constituée des enfants. Visitant quelques familles dans leur tente ce matin, Madame Kang a indiqué qu'elle a visité plusieurs camps dans le monde, mais Mugunga 3 est l'un des camps où les conditions sont les plus difficiles. Elle a émis le vœu de voir la sécurité et la paix, revenir au plus vite pour que ces familles puissent regagner leur milieu d'origine. Mugunga 3 connaît aussi des difficultés suite à la baisse générale du niveau de financement à la suite de la multiplication des crises humanitaires dans le monde. La sous-secrétaire générale a appelé à une plus grande mobilisation de ressources.
Les mines et les bombes blessent et tuent. Les mines et les bombes ont fait beaucoup de victimes en RDC. Les mines et les bombes sont de différentes formes, couleurs et tailles. Ne les approchez pas, ne les touchez pas, restez prudents. Votre vie n'a pas de prix. Ne prenez pas de risques inutiles. Informez l'autorité la plus proche. Message de l'UNMAS RDC.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Y aurait-il un nouveau groupe armé en gestation à la frontière RDC-Ouganda aux environs de Rutshuru? C'est la question de notre confrère Venant Voutissa de la RTNC lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Et c'est Charles-Antoine Bambara, directeur de l'info publique de la MONUSCO, qui répond dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Outre le FDLR et d'autres groupes armés qui ont désillusionné les FRDC et la force onusienne tout récemment, il y a un autre groupe en gestation qui serait en train d'opérer le long de la frontière entre l'Ouganda et la RDC, non loin de Rutshuru. Quelles sont les mesures que prennent les autorités tant des FRDC et surtout celles de la MONUSCO, sa force onusienne, afin que ce groupe soit étouffé, sinon ça va continuer à désillusionner comme ils l'ont fait la fois passée.
Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Des groupes en gestation, on entend parler de ça depuis belle lurette, et un groupe en gestation à la frontière Ouganda-RDC ne peut pas se cacher, et si tel était le cas, je suis sûr que des patrouilles FRDC ou MONUSCO tomberaient sur ces groupes et on en saurait beaucoup plus. Donc, une fois de plus, nous avons dit ici, à cette conférence de presse, de se méfier des rumeurs. Il ne faut pas que les journalistes tombent dans le colportage des bruits et des rumeurs qui courent, car il y en a beaucoup. Ça peut servir même à démoraliser les populations locales. Réellement, dans cette zone, il y a une forte présence, une fois de plus, des FRDC, de la MONUSCO sur le terrain. Je suis sûr qu'un groupe, même si c'est un petit groupe, il ne peut pas passer inaperçu. Nous restons vigilants dans tous les cas. Nous prenons toutes ces informations très au sérieux et je vous assure que à la fois du côté FRDC que de la MONUSCO, tout est fait pour que réellement aucun autre groupe ne puisse perturber, nouveau groupe ou ancien groupe ne puisse perturber la quiétude des populations dans cette partie du territoire.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Lungembo Lua Bungwanji, pour les intimes c'est JR. JR c'est un sobriquet, un diminutif qui vient de Jean Romain, c'est le nom de baptême. Actuellement je suis coordonnateur de l'émission Parole aux auditeurs. Cette émission part de Radio Okapi qui consiste notamment à donner la parole à la population pour des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux. Nous animons cette émission du lundi au vendredi et chaque jour, chaque matin pour faire une émission d'une heure. Nous commençons d'abord par contacter nos invités et aussi boucler avec les prévisionnels pendant la semaine et retenir des sujets qui peuvent attirer les uns et les autres au débat. Mais avant d'arriver à l'émission Parole aux auditeurs, comme coordonnateur, nous avons été d'abord tour à tour animateurs des tranches de la radio pour finalement animer une émission qu'on a appelée à l'époque Okapi Action avant de rejoindre Okapi Service. En ce qui concerne mon parcours professionnel, nous avons eu à passer un temps, en tout cas plus de 5 ans ou 7, voire même 10 ans à la RTNC. Nous avons eu à animer plusieurs émissions et au nombre de cette émission figure également l'émission phare que tout le monde connaît, les Caribous Variétés, que nous avons animé pendant 2 ou 3 ans avant de rejoindre bien entendu Radio Okapi. Je suis marié à Madame Maléa Chitolo. Avec elle, nous avons 4 enfants. L'aîné s'appelle Jemi Maria, qui est en 4e littéraire au lycée Kabamba. Le second, c'est Keti Lungembo, qui se trouve actuellement en 3e littéraire au collège Saint-Joseph. Et le troisième, c'est Charaya Lungembo et Ben, qui est les cadets. Tous deux sont encore à l'école primaire. Moi-même, par rapport à mon parcours scolaire, nous avons eu à passer un moment au collège Sainte-Marie, communément connu sous l'appellation de collège Notre-Dame, où nous avons obtenu le certificat d'études primaires. Et après cela, nous avons eu à parcourir les 6 ans post-primaire, tour à tour donc à l'Institut Bossembo, et puis on a obtenu le diplôme d'État en maths physique au collège Saint-Joseph, actuellement Elikia. Et après, nous avons eu à faire aussi un parcours élogé au niveau de l'université, tour à tour à l'ISC et à l'université de Kinshasa. Actuellement, donc, je suis détenteur d'une licence en économie appliquée. Nous avons eu dans notre actif à animer bon nombre d'émissions, des émissions phares, que ce soit à la RTNC ou encore à Radio Okapi. Nous pouvons citer, c'est vrai, la liste n'est pas exhaustive, pour mon scolaire, pour ceux de cette génération qui s'en souviennent, sur la RTNC, une émission parascolaire, l'émission Planète Jeune que nous avons eu aussi à animer, toujours à la RTNC. Mais pour Radio Okapi, je l'ai dit tantôt, il y a eu des tranches de 5-9, les tranches 12-15 et la tranche du soir qui m'ont permis d'ailleurs d'avoir une expertise avant de rejoindre l'équipe de Okapi Action, une émission phare de la Radio Okapi. Alors, dans mes temps libres, j'aime bien écouter la musique, j'aime bien me balader. Moi, je suis un féru de la musique congolaise. J'aime bien écouter Koffi Olomide, j'aime bien écouter Fally Ipupa. J'aime bien, bon, pour Fally, je suis très... je sais pas trop. Mais je peux quand même prédonner à une musique qui me fait quand même plaisir. C'est Double Clic, hein. Double Clic, Nga, Jojo, Ngonda. Double Clic, Nga, Jojo, Ngonda, Imene. Donc, j'aime un peu ça. Alors, dans les perspectives d'avenir, j'aimerais bien un jour aussi avoir, pourquoi pas, une chaîne de radio, pourquoi pas être responsable d'une télévision, me donner l'occasion en fait de transmettre l'expertise acquise à Radio Okapi aux générations futures. J'aimerais bien rester dans un créneau qui m'a donné l'occasion de pouvoir obtenir vraiment d'avoir un background, d'avoir l'expertise appropriée. Je vous remercie aussi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Deux dates à retenir dans les calendriers des Nations Unies pour la semaine qui commence. Le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Et le 12 septembre, c'est la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Nous voici à la fin de ce magazine qui était coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga était au reportage et la mise en onde signée Sylvain Matoudou. Nadine Foulantimba vous l'a présenté. Bon dimanche à tous.